Introduction à l'étude de la prophétie. Quatrième partie. Le règne millénaire. Introduction. Les jugements prépareront l'avènement du règne de Christ ici-bas. La justice et la paix que le monde recherche en vain depuis des siècles seront enfin établies sous le sceptre de celui auquel les hommes ont refusé de se soumettre jusqu'alors, disant
« Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. »
Le Seigneur veut d'abord avoir son Église avec lui, dans la gloire. Ensuite Israël, son peuple terrestre, sera préparé à l'accueillir par les épreuves de la grande tribulation, dont il sera délivré par l'apparition glorieuse de Christ. Celle-ci s'accompagnera de la destruction de ses ennemis, et de la purification de son royaume de tous les ouvriers d'iniquité. Nous trouvons donc, au début du règne millénaire, le résidu fidèle d'Israël, ainsi qu'un grand nombre de rachetés d'entre les nations qui s'identifieront avec lui. Épargnés par la clémence divine, ils auront survécu au jugement et aux persécutions de leurs ennemis pour former la population de la terre millénaire. Ils se soumettront avec joie au règne de Christ et le reconnaîtront comme leur Seigneur. Satan sera lié dans l'abîme durant 1000 ans et partout où le mal se montrera, il sera réprimé aussitôt, de sorte que la terre demeurera constamment dans l'état où l'auront placé la présence du Seigneur et l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire
pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer.
Les saints glorifiés seront associés à Christ dans son règne. Jérusalem sera le centre terrestre de ce glorieux royaume de justice et de paix. Israël, converti et restauré dans sa terre, occupera la première place parmi toutes les nations. Celles-ci monteront chaque année à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Le temple sera reconstruit sur la montagne de Sion. La gloire de Dieu se manifestera de façon visible dans les cieux et sur la terre, comme jadis la colonne de feu et de nuée marquait sa présence dans le tabernacle. Bien que le Seigneur ouvre en personne le règne millénaire, il ne sera pas présent sur la terre pendant cette période, mais demeurera en relation avec elle et aura à Jérusalem un représentant appelé le prince en Ézéchiel chapitre 46 à 48. Les effets de la malédiction seront supprimés, une grande prospérité régnera partout et la durée de la vie humaine sera considérablement augmentée. Le cœur de l'homme ne sera cependant pas changé, et plusieurs ne se soumettront à Christ qu'à contre-cœur et en dissimulant. Aussi, à la fin du millénium, Dieu procédera à une dernière épreuve. Satan sera délié de sa prison pour un peu de temps, et aussitôt une multitude d'hommes de toutes les nations se rangeront sous sa bannière. Ils s'assembleront nombreux comme le sable de la mer autour de Jérusalem, pour faire la guerre aux saints. Mais cette ultime rébellion contre Dieu sera de brève durée. Le feu du ciel dévorera tous ces méchants. Ainsi s'achèvera le règne de 1000 ans, dont nous allons examiner plus en détail l'instauration et les caractères, ainsi que la place et le rôle qui auront l'Église, Israël et les nations. Mais auparavant, il convient de considérer le roi lui-même, Christ, investi du pouvoir suprême à la face de l'univers tout entier. Chapitre 1er. Le roi des rois. Premièrement, si Christ est appelé à régner sur la terre et l'univers, c'est d'abord parce qu'il est roi et seigneur de toute éternité, ainsi qu'en font foi de nombreux passages de l'Écriture.
L'Éternel,
le Seigneur dans l'Ancien Testament,
est roi à toujours et à perpétuité. à l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui, est le roi de gloire. Psaume 10, verset 16 et 24, verset 1 et 10.
Deuxièmement, mais Christ est aussi roi d'Israël en tant que fils de David. Dieu avait promis à celui-ci que son trône serait établi à perpétuité.
Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. De Samuel 7, verset 16. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je ferai subsister sa semence à perpétuité, et son trône comme les jours des cieux. Sa semence sera à toujours, et son trône comme le soleil devant moi. Comme la lune, il sera affermi pour toujours. Psaume 89, verset 20 et suivant.
Il est évident que ces promesses ne s'appliquaient pas à David lui-même et à ses successeurs, dont le trône fut renversé définitivement par Nebuchadnezzar en 585 avant Jésus-Christ. David avait compris que ses promesses ne seraient accomplies qu'en Christ. Vois Actes 2, verset 30.
Étant donc prophète et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un suscité du fruit de ses reins sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Ayant donc été exalté par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël, donc, sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
L'ange Gabriel le confirme à Marie.
Tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il règnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Luc 1, verset 31 à 33.
Christ est donc, par droit de naissance, roi d'Israël. Plusieurs l'ont reconnu comme tel.
Matthieu 12, verset 23 et Marc 10, verset 47. Et toutes les foules étaient hors d'elles et disaient, « Celui-ci serait-il le fils de David ?» Et ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier et à dire, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !»
Une immense foule l'acclama lors de son entrée à Jérusalem en criant,
« Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Matthieu 21, verset 9. Voir aussi Marc 11, verset 10. « Béni soit le royaume de notre père David qui vient. »
Mais nous savons comment il fut rejeté par son peuple.
« Crucifie, crucifie-le, ôte, ôte, crucifie-le. Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Jean 19, verset 6 et suivant.
Ce rejet n'a cependant porté aucune atteinte à ses droits à la royauté, et il les fera valoir lors de son apparition glorieuse, aussi bien à l'égard d'Israël qu'envers les nations. Troisièmement, précisément, sa réjection et sa mort lui confèrent un titre nouveau à la royauté sur Israël et sur le monde entier.
Que toute la maison d'Israël, donc, sache certainement que Dieu a fait, et Seigneur, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, acte 2, verset 36. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé, et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploient tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Matthieu 22, verset 44, Hébreux 1, verset 13.
Par Hébreux 2, verset 5 à 10.
Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant, « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme que tu le visites ? Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et les établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds, car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout, car il convenait pour lui à cause de qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances.
Ainsi donc, Christ est roi à trois titres, savoir, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fils de David, parce qu'il est fils de l'homme, mort et ressuscité. Quatrièmement, pour l'instant, sa royauté n'est reconnue que dans le ciel et parmi ses bienheureux rachetés, qui, par la foi, le voient couronné de gloire et d'honneur.
Hébreux 2, verset 9. Nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges, à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Et il l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité, et puissance et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, Éphésiens 1, versets 20 et 22.
Toutefois, ce couronnement de Christ dans le ciel n'a pas encore été rendu visible sur la terre, où Christ est encore le roi rejeté, que ses concitoyens haïssent, et auquel ils envoient quotidiennement des ambassadeurs disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous » Luc 19, verset 14.
Or ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui une ambassade disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ».
Aussi la parole déclare-t-elle
« Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie » Hébreux 2, verset 8.
Bientôt, cela changera, et sa royauté sera reconnue de tous, même de ses ennemis. Mais ce sera trop tard pour eux, et ils entendront cette terrible sentence.
« Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi » Luc 19, verset 27.
Cinquièmement, voici comment la parole décrit l'entrée de Christ dans son règne.
Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix disant, « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu disant, « Nous te rendons grâce. » De ce que tu as pris ta grande puissance, et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé.
Après le règne millénaire,
et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. Apocalypse 11, versets 15 à 18. Et voici. Quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Daniel 7, versets 13 et 14.
Le jour approche rapidement où ces prophéties s'accompliront, et alors celui qui a été l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple sera reconnu par tous comme le roi des rois. Les siens pourront s'écrier avec le psalmiste
« Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Que les cieux se réjouissent et que la terre s'égaie, car il vient pour juger la terre. » Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 96, verset 8 et suivant.
Sixièmement, sa gloire et sa majesté seront manifestées à toutes les créatures qui seront amenées à lui rendre hommage et à se soumettre à son autorité royale. Citons encore quelques passages qui la décrivent.
« Tu es plus beau que les fils des hommes. » La grâce est répandue sur tes lèvres. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Psaume 45, verset 2 à 7. Et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix, à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. Ésaïe 9, versets 6 et 7. Tes yeux verront le roi dans sa beauté, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Lui nous sauvera. Ésaïe 33, versets 17 et 22. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne se lassera pas et il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Et les îles s'attendront à sa loi. Ésaïe 42, versets 1 et 4. C'est peu de chose que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Et je susciterai à David un germe juste, et il règnera en roi, et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays, et c'est ici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Jérémie 23, versets 5 et 6. Et il se tiendra et paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Car il sera grand jusqu'au bout de la terre, et lui sera la paix. Michée 5, verset 4. Et il portera la gloire, et il s'assiera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône. Zacharie 6, verset 13. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, et il annoncera la paix aux nations, et dominera d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Zacharie 9, versets 9 et 10. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes. Malachie 4, verset 2.
Telle est la description que la parole nous donne du roi de gloire, du prince de paix. Considérons maintenant ce que sera son règne. Chapitre 2. L'instauration du règne. Trois événements principaux marqueront l'instauration du millénium, savoir l'incarcération de Satan dans l'abîme pour 1000 ans, la résurrection des saints qui se seront endormis dans le Seigneur depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'à l'apparition glorieuse de Christ, le jugement des nations vivantes par le Seigneur, dont nous nous sommes entretenus dans un chapitre précédent. Nous nous bornerons donc à examiner les deux premiers événements. Premièrement, nous lisons en Apocalypse 20,
Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20, versets 1 à 3.
Ainsi, l'humanité sera délivrée, pendant toute la durée du millénium, de l'influence corruptrice du menteur, père du mensonge. Les deux acolytes de Satan, la bête et le faux prophète, l'auront précédé dans le feu inextinguible, où ils auront été précipités vivants.
Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre.
Pour que la paix et la justice puissent régner sur la terre, il faut que l'ennemi acharné des hommes soit réduit à l'impuissance. Cet événement mettra un terme à une période où la méchanceté du diable se sera manifestée dans toute sa fureur, période qui commencera au moment où il sera chassé du ciel et précipité sur la terre avec ses anges. Apocalypse 12, verset 9.
Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Quelle délivrance pour la terre et plus spécialement pour les fidèles d'Israël et des nations. Alors s'accomplira la prophétie d'Ésaïe.
Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel visitera l'armée d'en haut, et les rois de la terre sur la terre. Et ils seront assemblés dans la fosse, comme on assemble des prisonniers. Et ils seront renfermés dans la prison, et après beaucoup de jours ils seront visités.
C'est-à-dire châtiés.
Ésaïe 24, c'est 21 et 22.
Les saints sur la terre pourront entonner le cantique de délivrance.
Comment l'oppresseur a-t-il cessé? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait de coups les peuples, sans relâche, dominant les nations dans sa colère, et poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos et tranquille. Elle éclate en chants de triomphe. Ton orgueil est descendu dans le Shéol. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Ésaïe 14, verset 4 et suivant.
Quel contraste entre le spectacle qu'offrait auparavant la terre, guerre, ruine, larmes, mort, et cette paix, ces chants de triomphe qui éclateront de la terre entière, soumise à Christ, le roi de gloire, le prince de paix. Deuxièmement, le second événement, la résurrection des martyrs mis à mort après l'enlèvement de l'Église, se produira aussitôt après l'incarcération de Satan dans l'abîme.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse 20, versets 4 à 6.
Auront part à la première résurrection les saints de l'Ancien Testament et ceux de l'économie de la grâce qui seront ressuscités les uns et les autres lors de la venue du Seigneur et s'en iront à sa rencontre avec les vivants qui, eux, seront transmués. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17.
Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Une note en bas de page, la première résurrection a quatre phases. 1. Celle du Christ, les prémices. 1 Corinthiens 15, verset 20.
Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui sont endormis.
2. Celle des saints à sa venue, 1 Thessaloniciens 4. 3. Celle des deux témoins, Apocalypse 11. 4. Celle des autres martyrs de la période apocalyptique. Reprise de la lecture. Ces rachetés reviendront avec Christ lorsqu'il apparaîtra en gloire, et c'est alors qu'aura lieu le dernier acte de la première résurrection, savoir la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Ils régneront avec Christ dans la partie céleste du royaume, tout comme les saints qui auront été enlevés à la rencontre du Seigneur. Tous, ils seront rois et sacrificateurs de Dieu et de Christ durant le millénium, position combien bénie et glorieuse. Ils suivront le roi partout et partageront sa gloire, associés à lui dans l'exercice de la royauté. Ils seront manifestés publiquement en même temps que le roi qui apparaîtra visiblement aux yeux du monde entier lorsqu'il viendra instaurer son règne. La nuée de la gloire divine remplira de nouveau le temple à Jérusalem, ainsi que l'annonce le prophète Ézéchiel.
Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et sa voix était comme une voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. Et la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et il me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. » Et il me fit retourner vers la porte extérieure du sanctuaire qui regardait vers l'Orient, et elle était fermée. Et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée, elle ne sera pas ouverte, et personne n'entrera par elle, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par elle, et elle sera fermée. » Ézéchiel 43, versets 2, 4, 5 et 44, versets 1 et 2.
D'autres passages encore confirment que, comme autrefois, la gloire du Seigneur sera manifestée par une colonne de nuée et de feu. Voir Zacharie 8, verset 3.
« Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. »
Zacharie 2, verset 5.
« Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. »
Isaïe 4, verset 2 à 5.
« En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel, pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement, pour les réchappés d'Israël. Et le résidu en Sion et le reste dans Jérusalem sera appelé saint. Quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem, quand le Seigneur aura nettoyé la saleté des filles de Sion, et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption. Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion, et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour, et la splendeur d'une flamme de feu la nuit, car sur toute la gloire il y aura une couverture. »
Ainsi, les hommes percevront la présence du Seigneur sur la terre durant le millénium. D'autre part, il aura à Jérusalem un représentant appelé le prince par Ézéchiel.
Quant au prince, le prince, lui, y sera assis.
Dans le temple.
Pour manger le pain devant l'Éternel.
Ézéchiel 44, verset 3, 46, verset 2. Ce prince fera fonction de vice-roi et exercera l'autorité au nom de Christ. Chapitre 3. Les caractères du règne. De nombreux passages décrivent la félicité qui régnera sur la terre sous le sceptre de Christ. Tout ce que l'homme s'efforce en vain d'établir depuis des siècles, paix, justice, bonheur, prospérité, santé, longévité, sera enfin assuré à ceux qui se soumettront au roi des rois. Christ répondra ainsi aux aspirations profondes de l'humanité, jamais satisfaites, depuis qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Romains 8, versets 19 à 22.
Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie. Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant.
Premièrement, après des siècles de guerre toujours plus meurtrières, la paix régnera sans discontinuer sur toute la terre, et aucun conflit ne viendra plus la compromettre.
De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte, et le manteau roulé dans le sang seront un embrasement, la pâture du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. L'œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice repose et sécurité à toujours. Et mon peuple habitera une demeure de paix, et des habitations sûres et des lieux de repos tranquilles. Et je te donnerai pour gouvernant la paix, et pour magistrat la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes confins. Isaïe 2, verset 4.
Lire également Psaume 72, versets 3 et 7.
Les montagnes porteront la paix au peuple et les coteaux par la justice. En ces jours le juste fleurira, et il y aura abondance de paix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune.
Psaume 46, versets 10 et 11.
Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une haute retraite, c'est là.
Michée 4, verset 4.
Et ils s'assieront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne qui les effraie, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé.
Michée 5, verset 4.
Et il se tiendra, et paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'au bout de la terre, et lui sera la paix.
Zacharie 9, verset 10.
Et je retrancherai d'Éphraïm le char et de Jérusalem le cheval, et l'arc de guerre sera retranché. Et il annoncera la paix aux nations, et dominera d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre.
Deuxièmement, avec la paix, Christ fera régner aussi la justice, en contraste avec l'état actuel, où l'injustice et le péché triomphent souvent.
Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés avec droiture. Il fera justice aux affligés du peuple. Il sauvera les fils du pauvre et il brisera l'oppresseur. En ces jours le juste fleurira, car il délivrera le pauvre qui crie à lui et l'affligé qui n'a pas de secours, psaume 72. Et il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, mais il jugera avec justice les misérables et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. on ne fera pas de tort et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne. Et un trône sera établi par la bonté, et il y en aura un qui y siégera dans la vérité, dans la tente de David, jugeant et recherchant la droiture, et hâtant la justice. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations, il ne se lassera pas et il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Ésaïe 2, verset 4, 11, verset 3 à 5, verset 9, 16, verset 5 et 42, verset 4.
Lire aussi Jérémie 23, verset 5 et 6.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il règnera en roi et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé, et Israël demeurera en sécurité, et c'est ici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice.
Malachie 4, verset 2.
Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Psaume 45, versets 7 et 8. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès et casse, quand tu sors des palais d'ivoire d'où ils t'ont réjoui.
Troisièmement, à la crainte et à l'inquiétude qui habitent aujourd'hui le cœur des hommes succéderont la joie et le bonheur.
Et l'Éternel des armées fera, en cette montagne, à tous les peuples un festin de choses grasses, un festin de vin vieux, de choses grasses moelleuses, de vin vieux bien épuré. Et il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples, et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Et les débonnaires augmenteront leur joie en l'Éternel, et les pauvres d'entre les hommes s'égayeront dans le sein d'Israël, car les détresses précédentes seront oubliées. Mais réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour être une jubilation et son peuple une joie, et on n'y entendra plus la voix des pleurs et la voix des cris. Ésaïe 25, versets 6 à 8, 29, versets 19 et 65, versets 16 à 19.
Quatrièmement, une des causes principales de la souffrance et de l'angoisse humaines actuelles, c'est la mort, qui est le salaire du péché. Sous le règne de Christ, certes, la mort ne sera pas encore abolie, mais elle ne sera plus que le châtiment d'un acte de désobéissance caractérisé d'un péché.
Chaque matin, il met en lumière son juste jugement, Sophonie 3, verset 5. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays, pour retrancher de la ville de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité, Psaume 101, verset 8.
Par conséquent, ceux qui se soumettront à Christ ne mourront point.
Il n'y aura plus, dès lors, ni petit enfant de peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Car le jeune homme mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre. Ésaïe 65, versets 20 et suivants.
La maladie et les infirmités disparaîtront.
Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf, et la langue du muet chantera de joie. Ésaïe 35, versets 5 et 6.
On ne pourrait, en effet, concevoir que, sous le règne de Christ, le monde continue à être étreint par la souffrance physique, et que subsistent partout ces établissements où elle s'étale aujourd'hui d'une manière particulièrement émouvante. Non, celui qui, lorsqu'il était ici-bas dans l'humilité, allait de lieu en lieu, guérissant les malades et les infirmes, délivrera l'humanité des conséquences du péché lorsqu'il règnera en puissance durant le millénium. Cette délivrance fait aussi partie du rétablissement de toutes choses dont parle l'apôtre Pierre en Actes 3, verset 21.
lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps.
Cinquièmement, la terre elle-même y aura aussi sa part, et, délivrée de la malédiction qui pèse sur elle depuis la chute, elle produira en abondance ce qui contribuera à la prospérité générale.
Il y aura abondance de froment sur la terre, sur le sommet des montagnes. Son fruit bruira comme le Liban, et les hommes de la ville fleuriront comme l'herbe de la terre. Psaume 72, verset 16.
Ainsi que nous le verrons plus loin, ces bénédictions matérielles seront plus particulièrement le lot d'Israël. Mais il est certain que toutes les nations jouiront aussi d'une prospérité inconnue jusqu'ici.
Et il donnera la pluie à ta semence dont tu ensemenceras le sol, et le pain produit du sol, et il sera riche et nourrissant. Ton bétail paîtra en ce jour-là dans de vastes pâturages, et les bœufs et les ânes qui labourent le sol mangeront du fourrage salé. Et sur toute haute montagne, et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Ésaïe 30, versets 23 à 25. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, et les montagnes ruisselleront de moût. Amos 9, verset 13.
Lire aussi Osée 2, versets 21 et 22.
Et il arrivera en ce jour-là que j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et eux exauceront la terre, et la terre exaucera le froment, et le moût et l'huile, et eux exauceront Jisréel.
Joël 3, verset 18.
Et il arrivera en ce jour-là que les montagnes ruisselleront de moût, et les collines découleront de lait, tous les torrents de Juda découleront d'eau, et une source sortira de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim.
Zacharie 3, verset 10.
En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous convierez chacun son prochain sous la vigne et sous le figuier.
Zacharie 8, verset 12.
Car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit, et la terre donnera ses produits, et les cieux donneront leur rosée, et je ferai hériter au reste de ce peuple toutes ces choses.
Cette merveilleuse délivrance de la création, Romains 8, versets 19 à 22, se traduira par la disparition presque complète des conséquences du péché.
Romains 8, versets 19 à 22, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu, car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu, car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, Ésaïe 55, verset 13. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées, je changerai le désert en un étang d'eau et la terre aride en des sources jaillissantes. Je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia et le myrte et l'olivier. Je mettrai dans le lieu stérile le cyprès, le pin et le buis ensemble. Ésaïe 41, verset 18-19. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de la spique, et l'enfant sevré étendra sa main sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas, dans toute ma sainte montagne, Ésaïe 11, versets 6 à 9. Je mettrai fin aux bêtes mauvaises dans le pays, et ils habiteront dans le désert en sécurité, et dormiront dans les forêts, Ézéchiel 34, verset 25.
Le rétablissement de toutes choses implique donc une bénédiction analogue à celle du paradis, quoique imparfaite, car le mal ne sera pas absolument ôté. Chapitre 4. L'Église durant le millénium. La parole de Dieu ne contient que quelques passages concernant la position et le rôle de l'Église durant le millénium. Premièrement, citons tout d'abord l'Apocalypse.
« Et l'un des sept anges vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 21, verset 9 à 22, verset 5. Ce passage décrit les gloires merveilleuses de l'Église, l'épouse de l'agneau, nouvelle Jérusalem durant le millénium. Elle a la gloire de Dieu. Dieu et l'agneau en sont le temple, l'agneau est sa lampe. D'autre part, l'administration du règne lui est confiée. Les rachetés de Christ le serviront et régneront avec lui au siècle des siècles. Les rois de la terre leur apporteront leurs offrandes et leurs hommages. Dieu se servira de l'Église pour répandre la bénédiction et la gloire sur la terre entière, et plus particulièrement sur Israël. Les noms des 12 tribus des fils d'Israël sont écrits sur les 12 portes de la cité, et d'autre part, celle-ci porte le nom de Jérusalem. Le fait qu'il n'y a pas de temple en elle montre combien intime sera la communion des rachetés, faisant partie de l'Église avec Christ, leur divin époux. Ils n'auront nul besoin d'intermédiaire entre lui et eux, mais ils lui seront étroitement associés dans sa gloire royale. Le temple convient à la terre. Or, les rachetés qui composeront la sainte cité occuperont la partie céleste du royaume. Dieu et l'agneau en seront le temple. Deuxièmement, quant aux formes sous lesquelles se manifestera l'activité des saints célestes envers les habitants de la terre, Dieu n'a pas jugé nécessaire de nous révéler ses desseins de manière détaillée. Il est seulement répété à plusieurs reprises que nous régnerons avec Christ. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, de Timothée 2, verset 12. Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 2, verset 26-27 et 3, verset 21.
Lorsqu'ils rendent gloire à l'agneau, les quatre animaux et les 24 anciens confirment ce fait glorieux.
Tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, versets 9 et 10.
De son côté, le Seigneur a promis à ses apôtres une place particulière dans son royaume.
En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, verset 28.
Lire également Luc 22, versets 28 et 29.
Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations, et moi je vous confère un royaume, comme mon Père m'en a conféré un.
Et, d'une manière plus générale, il s'adresse à tous les rachetés en ces termes.
Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, verset 32.
Troisièmement, la parole de Dieu ne nous en dit pas davantage. qu'il nous suffise donc de savoir que nous régnerons avec Christ. Peuple céleste, dès maintenant, notre part dans le millénium sera céleste aussi. L'essentiel pour nous est de savoir que cette part sera merveilleuse, puisque nous partagerons la gloire de Christ et serons les agents de son pouvoir royal. Nous serons rois et sacrificateurs pour Dieu. Et selon le symbole du tabernacle, nous pouvons dire que cette sacrificature s'exercera dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la partie céleste du royaume, tandis qu'Israël servira Dieu sur la terre, dans le sanctuaire, comme faisaient les Lévites. Enfin, les nations se tiendront dans le parvis, où elles viendront apporter leurs offrandes à l'Éternel, comme autrefois les 12 tribus. Ainsi, un avenir particulièrement glorieux attend l'Église dans le règne millénaire. Quel bonheur pour les rachetés qui la composent de savoir qu'ils seront avec leur Seigneur, semblables à lui et unis à lui dans l'exercice de sa royauté et de sa sacrificature. Quelle joie aussi pour son cœur
quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, de Thessaloniciens 1, verset 10.
Une citation de Henri Rossier. Le Seigneur Jésus fera de nous, quand il apparaîtra, les pierres précieuses qui seront le resplendissement de sa glorieuse couronne et qui reflèteront partout, non ce que nous serons, mais ce qu'il est lui-même. C'est lui qui sera glorifié, lui qui sera admiré dans les siens. Fin de citation.
Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Colossiens 3, verset 4.
Plus de nuit, plus de distance, ton épouse à ton côté reflétera ta puissance et ta grâce et ta beauté. Fruit de ton amour suprême, on la verra dans ce jour, environnée elle-même de ton éternel amour. Chapitre 5. Israël durant le millénium. Les bénédictions promises à Israël étaient essentiellement terrestres. Par sa désobéissance, il en fut privé, mais Dieu accomplira néanmoins ses desseins de grâce envers son peuple. Après que celui-ci aura été converti par sa miséricorde et au moyen de l'épreuve, il sera introduit dans les bénédictions du millénium, sous le règne de son Messie, reconnu et acclamé comme roi des rois. On comprend donc que le peuple d'Israël sera appelé à jouer un rôle tout particulier durant cette période et occupera une place spéciale dans le règne. Premièrement, Dieu ayant repris avec lui ses relations en grâce, Israël redeviendra le premier peuple de la terre et cette prééminence sera proclamée et reconnue par toutes les nations. Quel renversement de situation après des siècles de persécution et d'oppression de la part des autres peuples.
Ils domineront sur leurs oppresseurs, Ésaïe 14, verset 2. Et les fils de tes oppresseurs viendront se courber devant toi, et tous ceux qui t'ont méprisé se prosterneront à la plante de tes pieds, et t'appelleront la ville de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël, Ésaïe 60, verset 14.
L'influence d'Israël s'étendra au monde entier.
Dorénavant, Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera, et remplira de fruits la face du monde. Ésaïe 27, verset 6.
Bien plus, les gouvernements étrangers feront acte de soumission envers Israël.
Et des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi le visage contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que moi je suis l'Éternel, Ésaïe 49, verset 23.
Deuxièmement, cette soumission s'accompagnera de grandes libéralités de la part de tous les peuples.
Les richesses des nations viendront vers toi, et tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, pour que te soient apportées les richesses des nations, et pour que leur roi te soit amené. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, et ces nations seront entièrement désolées. Ésaïe 60, versets 5, 11 et 12. voir aussi Ésaïe 61, versets 5 et 6. Et les étrangers se tiendront là et paîtront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On dira de vous les serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations, et vous vous revêtirez de leur gloire. Ésaïe 66, verset 12. Car ainsi dit l'Éternel, voici, j'étends sur elle la paix comme une rivière, et la gloire des nations comme un torrent qui se déborde. Et vous tâterez, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux.
Troisièmement, Jérusalem deviendra la capitale du monde, et cela parce que Dieu y manifestera sa présence.
Car l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité. Ici j'habiterai, car je l'ai désiré. Psaume 132, versets 13 et 14. Et l'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Et beaucoup de peuples et des nations puissantes iront pour rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem, et pour implorer l'Éternel. Tous ceux qui resteront de toutes les nations monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Zacharie 2, verset 12, 8, verset 3, 22, 14, verset 16. Dans ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, et toutes les nations se rassembleront vers elle au nom de l'Éternel à Jérusalem. Jérémie 3, verset 17.
Voir aussi Michée 4, versets 1 et 2.
Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront, et beaucoup de nations iront et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ézéchiel 43, verset 7. Et il me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Et la maison d'Israël ne rendra plus impur mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu. »
Quatrièmement, le temple de Jérusalem sera reconstruit, et le prophète Ézéchiel le décrit de façon minutieuse dans les 6 chapitres de son livre, Ézéchiel 40 à 44 et 46. C'est là que résidera la gloire de Dieu, chapitre 43, versets 1 à 7, sous la même apparence qu'autrefois, c'est-à-dire sous la forme d'une colonne de nuée et de feu.
Ézéchiel 43, versets 1 à 7. Et il me conduisit à la porte qui regardait vers l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et sa voix était comme une voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. Et l'aspect de la vision que je voyais était comme la vision que j'avais vue quand je vins pour détruire la ville. Et les visions étaient comme la vision que je vis près du fleuve Kébar, et je tombai sur ma face. Et la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient. Et l'Esprit m'enleva et m'amena dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait à côté de moi. Et il me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Et la maison d'Israël ne rendra plus impur mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur les hauts lieux. »
Les sacrifices seront rétablis pour commémorer l'œuvre de Christ à la croix.
Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, eux s'approcheront de moi pour faire mon service, et se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 44, 15.
une source d'eau vive jaillira du temple et s'écoulera dans la mer morte, qui sera ainsi assainie et regorgera de poissons. Joël 3:18.
Et il arrivera en ce jour-là que les montagnes ruisselleront de moue, et les collines découleront de lait, et tous les torrents de Juda découleront d'eau, et une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim.
Zacharie 14:8.
Et il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver.
Ézéchiel 47:1-12.
Et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient, et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient. Et voici des eaux qui coulaient du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux genoux. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser, des eaux montant jusqu'aux reins. Et il mesura 1000 coudées, c'était une rivière que je ne pouvais traverser, car les eaux avaient cru, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Et il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière. Quand j'y fus retourné, voici, au bord de la rivière, des arbres en très grand nombre, d'un côté et de l'autre. Et il me dit, « Ces eaux sortent vers la contrée orientale, et elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines. Et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et les eaux de la mer seront rendues saines, et tout vivra, là où parviendra la rivière. Et les pêcheurs se tiendront auprès d'elle, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, ce sera un lieu pour étendre les filets. Leur poisson sera selon ses espèces, comme le poisson de la grande mer, en très grand nombre. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leurs feuilles ne se flétrira pas et leurs fruits ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire, et leur fruit sera pour nourrir et leurs feuilles pour guérir.
On célébrera de nouveau la Pâque, qui rappellera la mort expiatoire de Christ, et la fête des tabernacles, symbole du repos accordé par Dieu à Israël et aux nations. Ézéchiel 45:21-25.
Au premier mois, le 14e jour du mois, sera pour vous la Pâque, une fête de 7 jours. On mangera des pains sans levain. Et le prince offrira en ce jour-là, pour lui-même et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice pour le péché. Et les 7 jours de la fête, il offrira à l'Éternel comme holocauste 7 taureaux, et 7 béliers sans défaut chaque jour, les 7 jours, et, en sacrifice pour le péché, un bouc chaque jour. Et il offrira, comme offrande de gâteau, 1 épha par taureau et 1 épha par bélier, et de l'huile, 1 hin par épha. Et au 7e mois, le 15e jour du mois, à la fête, il fera selon ses ordonnances 7 jours, quant au sacrifice pour le péché, quant à l'holocauste, et quant à l'offrande de gâteau et quant à l'huile.
Zacharie 14:16-19.
Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celle-là il n'y aura pas de pluie. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y en aura pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte, et la peine du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.
Un prince gouvernera le pays, il aura des fils et possédera des terres. Ézéchiel 46, verset 16.
Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, si le prince fait un don à l'un de ses fils, ce sera l'héritage de celui-ci pour ses fils, leur possession comme héritage.
Ézéchiel 45, versets 7 et 8.
Et il y aura une portion pour le prince, d'un côté et de l'autre côté de la sainte offrande élevée et de la possession de la ville, en face de la sainte offrande élevée et en face de la possession de la ville, au côté occidental vers l'occident et au côté oriental vers l'orient, et la longueur en sera vis-à-vis de l'une des portions des tribus, depuis la limite occidentale jusqu'à la limite vers l'orient. Elle lui appartiendra comme terre, comme possession en Israël. Et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon leur tribu.
Il pratiquera la justice et offrira des sacrifices pour le peuple. Ézéchiel 45, versets 8, 9 et 17.
Elle lui appartiendra comme terre, comme possession en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon leur tribu. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, c'en est assez, prince d'Israël. Ôtez la violence et la rapine et pratiquez le jugement et la justice. Cessez d'expulser mon peuple de leur terre, dit le Seigneur l'Éternel. Et le prince sera chargé de fournir les holocaustes et l'offrande de gâteaux et la libation au jour de fête, et aux nouvelles lunes et au sabbat dans toutes les solennités de la maison d'Israël. Lui offrira le sacrifice pour le péché, et l'offrande de gâteaux, et l'holocauste, et les sacrifices de prospérité, pour faire propitiation pour la maison d'Israël.
Cinquièmement, Israël aura aussi pour mission de faire connaître le nom de Christ à toutes les nations, spécialement au début du règne millénaire.
Et j'enverrai les réchappés d'entre eux vers les nations, aux îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire, et ils raconteront ma gloire parmi les nations, Ésaïe 66, verset 19. Et le résidu de Jacob sera, au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée de par l'Éternel, comme les ondées sur l'herbe, Michée 5, verset 7. Et il arrivera que, comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai, et vous serez une bénédiction, Zacharie 8, verset 13. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, saisiront le pan de la robe d'un homme juif, disant, « Nous irons avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. » Zacharie 8, verset 23. Ils te supplieront, disant, « Certainement Dieu est au milieu de toi, et il n'y en a pas d'autre, point d'autre Dieu. » Ésaïe 45, verset 14.
L'apôtre Paul fait sans doute allusion à ce ministère futur d'Israël parmi les nations lorsqu'il écrit aux Romains,
« Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude, Romains 11, verset 12.
Alors, en effet,
les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever, Ésaïe 60, verset 3.
Chapitre 6. Les nations durant le millénium. Premièrement, si la prophétie souligne la prééminence d'Israël pendant le règne de 1000 ans, elle montre que les nations participeront aussi aux bénédictions qui découleront de la domination de Christ sur la terre. En effet, il
fera valoir le jugement à l'égard des nations
et sera établi pour être
une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre, Ésaïe 42, verset 1. 49, verset 6.
Le prophète Daniel annonce lui aussi que le règne du Seigneur s'étendra à toutes les nations.
Et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Chapitre 7, verset 14.
Deuxièmement, de même que Dieu opérera dans le cœur du résidu pour le convertir, il agira puissamment parmi les nations pour les amener à se tourner vers Christ.
En ce jour-là, l'homme regardera vers celui qui l'a fait, et ses yeux verront le Saint d'Israël, Ésaïe 17, verset 7. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. Sophonie 3, verset 9.
Certes, Dieu se servira du message du salut qui sera annoncé par les nombreux évangélistes qui, venant d'Israël, parcourront le monde entier. Mais il touchera lui-même les cœurs et les consciences des plus endurcis.
En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et les yeux des aveugles, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, verront. Et les yeux de ceux qui voient ne seront pas aveuglés, et les oreilles de ceux qui entendent écouteront, et le cœur de ceux qui vont étourdiment sera intelligent dans la connaissance, et la langue de ceux qui bégaient parlera promptement et clairement. Ésaïe 29, verset 18 et 32, verset 3 et 4.
Troisièmement, cette conversion des nations qui suivra celle d'Israël aura pour effet de les amener à se soumettre à Christ et à le reconnaître comme roi des rois.
Et il dominera d'une mer à l'autre mer et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Les habitants du désert se courberont devant lui et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles lui apporteront des présents. Les rois de Sheba et de Séba lui présenteront des dons. Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Psaume 72, versets 8 à 11.
Le prophète Ésaïe fait des déclarations semblables.
Et en ce jour-là, il y aura une racine d'Ésaïe se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront, et son repos sera gloire. Et ils se tourneront vers l'Éternel, et il leur sera propice et les guérira. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 11, verset 10, 19, verset 22 et 56, verset 6 et 7.
Citons, pour terminer, le prophète Zacharie.
Et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple. Zacharie 2, verset 11. Ainsi, l'ensemble des peuples servira le Seigneur avec joie, et les inconvertis ne constitueront plus qu'une minorité qui se soumettra en dissimulant. Ceux qui commettront des actes de rébellion seront aussitôt anéantis, comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent.
Quatrièmement, les nations se rendront en foule à Jérusalem pour adorer.
Et les peuples y afflueront, et beaucoup de nations iront et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Michée 4, versets 1 et 2. Ainsi dit l'Éternel des armées, « Encore une fois il viendra des peuples et des habitants de beaucoup de villes, et les habitants de l'une iront à l'autre, disant, « Allons, allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel des armées. Moi aussi j'irai, et beaucoup de peuples et des nations puissantes iront pour rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem et pour implorer l'Éternel. » Zacharie 8, versets 20 à 22.
Les nations qui négligeront ce service de l'adoration seront punies.
Et il arrivera que celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celle-là il n'y aura pas de pluie. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14, versets 17 à 19.
Cinquièmement, bien que le péché et la mort existent encore, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel.
Comme les eaux couvrent le fond de la mer, Ésaïe 11, verset 9.
Les cœurs du grand nombre seront si pleins de Christ que la sainteté caractérisera l'activité des hommes, et jusque sur les clochettes des chevaux, on inscrira « Sainteté à l'Éternel ». Zacharie 14, verset 20.
En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel » et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Devant moi tout genou se ploiera, par moi toute langue jurera. En l'Éternel seul, dira-t-on, j'ai justice et force. C'est à lui qu'on viendra, et tous ceux qui s'irritent contre lui auront honte. Ésaïe 45, versets 23 et 24.
Enfin sera exaucée la prière si souvent exprimée, que ton règne vienne. Chapitre 7. La fin du millénium. Christ règnera avec une verge de fer. Cela signifie qu'il ne tolérera aucune atteinte à son autorité. C'est pourquoi le psalmiste invite les rois et les juges de la terre à servir le Seigneur avec crainte et tremblement.
Et maintenant, ô roi, soyez intelligent. Vous, juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Psaume 2, versets 10 à 12.
Il y aura des rebelles qui refuseront de se soumettre de cœur à l'autorité de Christ, mais qui dissimuleront leur haine. Partout où le mal se montrera, un juste jugement le réprimera immédiatement, car le roi règnera en justice. Ceux qui auront été ainsi châtiés serviront d'exemple à ceux qui seraient tentés de les imiter.
Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. Ésaïe 66, verset 24.
Mais ni la prospérité, ni la paix, ni la justice qui régneront ne changeront le cœur de l'homme. Seule la grâce de Dieu peut le régénérer. À la fin du règne millénaire, Dieu soumettra l'homme à une dernière épreuve. Satan sera délié pour un peu de temps.
Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Apocalypse 20, versets 7 et 8.
Dieu manifestera l'état réel des cœurs par ce moyen. Ceux dont l'obéissance aura été feinte dévoileront alors leurs vrais sentiments, c'est-à-dire leur haine contre Christ et les siens. Aussi, dès que Satan apparaîtra, ils s'assembleront avec empressement sous sa bannière pour faire la guerre aux saints, dans l'espoir insensé d'abolir le règne de Christ et de rétablir l'état de choses antérieur. Quelle aberration! Ces méchants seront nombreux comme le sable de la mer, ce qui les fait comparer à Gog et Magog d'Ézéchiel 39, le puissant ennemi russo-asiatique qui, 1000 ans auparavant, aura envahi et ravagé la Palestine. Cela montre combien est irrémédiable la méchanceté du cœur humain. Après 1000 ans de paix, de bénédictions de toutes sortes, des millions d'hommes proclameront qu'ils préfèrent encore Satan à Dieu et se révolteront ouvertement contre le roi des rois.
Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Verset 9.
Une fois de plus, le diable s'efforcera d'anéantir les saints et Jérusalem, la ville du grand roi. C'est ce qu'il avait déjà tenté après qu'il eût été chassé du ciel et précipité sur la terre. Apocalypse 12, verset 7 et suivant.
Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Ses desseins ne changent pas. Ne pouvant atteindre le Seigneur, il s'acharne contre ses bien-aimés. Jérusalem et le temple auront été pendant 1000 ans l'habitation de l'Éternel. Aussi Satan cherchera-t-il à les anéantir. Mais le Seigneur ne le lui permettra pas. Un jugement foudroyant mettra fin à cette révolte.
Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, versets 9 et 10.
Ainsi, dès que la tentation aura révélé le secret des cœurs, la révolte sera anéantie et le diable ne parviendra aucunement à nuire aux saints. Cette rébellion et le jugement sommaire qui la réprime marquent la fin du millénium. Une dernière phase de la prophétie va s'ouvrir, l'état éternel, qui fera l'objet de la cinquième et dernière partie de cette étude.